Dominique Lambert, parmi vos champs de recherche, il y a un champ de recherche que vous affectionnez particulièrement, qui est le robot et sa place et son articulation avec l'humain. Qu'est-ce que l'homme au milieu, justement, de cette recherche sur le robot et sur le cyborg ?
Alors, cette question m'intéresse d'une certaine manière parce que ces deux courants, par contraste, font apparaître ce qui est la nature de l'homme. Par exemple, bien entendu, dans le cyborg, il y a l'idée de l'homme qui crée une technologie pour, disons, alléger son travail, pour remédier à des problèmes de santé, etc. Il y a cet aspect de maîtrise, de créativité, etc. Mais dans la mesure où on augmente tellement l'homme que, dans le fond, l'homme disparaît sous la technologie, où on poursuit seulement l'idée d'une maîtrise totale, où d'une certaine manière on pourrait penser à un fantasme de puissance, de surpuissance, grâce à l'augmentation de l'homme, alors dans le fond on sent l'homme diminuer. Parce que si l'homme est, bien sûr, capacité de maîtrise, de créativité, d'innovation, l'homme se voit dans la capacité de renoncer à la puissance, à la maîtrise, etc. On dira qu'une attitude est humaine quand justement on peut mettre un frein, une barrière à la puissance. Il y a dans l'homme cette coexistence de cette capacité de maîtrise et cette capacité de renoncer à la maîtrise pour faire place aux vulnérables, aux fragiles. Et ça m'a toujours vraiment étonné de voir qu'à la fin du livre sur l'homme, le fameux livre de Darwin sur l'homme, la filiation humaine, il y a une remarque sur le fait que la partie la plus noble de l'homme, sa nature, c'est justement de mettre des barrières à la sélection naturelle et de faire place aux lois pour les pauvres, aux hôpitaux pour les malades, etc. Donc, il y a quelque chose que même le non-croyant pourrait voir. Donc, ce n'est pas spécifiquement, on pourrait dire, lié directement à une révélation. C'est le fait que l'homme se montre aussi, et peut-être surtout dans sa capacité de faire place à la faiblesse, de faire place aux fragiles. Et moi, ce qui m'intéresse dans la question de la technologie, de la robotique, c'est ça. Quelles sont la portée et la limite de la robotique ? Je ne suis pas du tout technophobe, et il serait dangereux de l'être, sinon on devrait renoncer à tous les moyens technologiques. Donc, la technologie est au service de l'homme. Mais qu'est-ce qui limite ou qu'est-ce qui guide la création technologique ? C'est justement toujours la réintroduction de cet espace qui d'une certaine manière, donne de la place à ce qui est vulnérable, ce qui est fragile, ce qui n'est pas nécessairement la force, etc.
Et dans l'autre courant dont vous parliez, il y a d'autres dangers aussi.
Alors dans le courant de l'humanisation, entre guillemets, des robots, il y a bien sûr le gros danger de conférer de plus en plus à des machines des pouvoirs de décision qui n'appartiennent qu'à l'humain.
Or, on pense par exemple aux drones.
Oui, c'est ça. Donc c'est devenu aujourd'hui un problème majeur dans les questions de sécurité et de défense.
Et d'éthique.
Et bien entendu, la tendance à conférer à des machines le pouvoir de tuer. C'est même un problème. Donc il y a les problèmes de sécurité et de défense, mais c'est aussi des problèmes dans le domaine financier où des robots dans les trading à haute fréquence, donc des transactions boursières, où on fait 100 000 transactions boursières à la seconde, des machines capables de prendre des décisions qui peuvent avoir un impact sur la vie économique et sociale mondiale, avec des risques de crash, etc. Dans le fond, là, une telle fascination par rapport aux machines que l'homme en viendrait à conférer un pouvoir de décision en abandonnant quelque part ce qui fait le propre de l'humain. Alors on pourrait dire, mais où se voit le propre de l'humain ?
Eh bien, alors oui. Où est la profondeur de l'homme ?
Oui, justement, on voit cette profondeur de l'homme dans la capacité de pouvoir décider avec prudence. Dans certains cas, dans certains dilemmes moraux, la machine ne fait certainement pas mieux que l'homme. Et c'est quelque chose de tout à fait intéressant aujourd'hui de voir que dans la question des dilemmes, et dans le fond, les questions éthiques profondes sont des questions qui sont liées à des dilemmes, la machine ne fait pas mieux, mais on voit que l'homme, là, a toute sa place. Car l'homme va décider avec cette prudence qui, justement, transgresse les lois de la technologie pour faire place au pardon, pour faire place au refus de maîtrise, pour redonner sa chance à l'acteur économique ou militaire qui est devant soi. Et ça, c'est d'une certaine manière rejoint la grande tradition de la phronésis aristotélicienne ou de la prudence thomiste, le jugement de prudence. Et j'avais été fort frappé de voir que des juristes qui ne partagent pas du tout ma foi, mais retrouver ce sens en disant oui, les robots joueront de plus en plus un rôle important, mais dans le domaine juridique, ils ne parviendront pas à prendre toute la place, car dans la décision juridique, il y a quelque chose qui permet toujours de peut-être d'aller au-delà du cadre strict légal pour permettre une réconciliation, pour permettre des choses que la norme stricte ne permettrait pas, mais qui permet de redonner de la vie à ceux qui seraient exclus du système, etc. Et donc, je pense que là se voit l'humain. La machine est au service de l'humain, mais la machine ne peut pas, d'une certaine manière, prendre ces décisions créatives que l'homme peut prendre, parce que l'homme est probablement une réalité profonde qui peut faire place à quelque chose qui n'est jamais simplement le produit d'un calcul, d'un algorithme, de normes strictes, mais qui d'une certaine manière est une réalité profonde au-delà de tout cela.
Alors Dominique Lambert, dans quelques jours, ce sera Noël et on vient de parler de la profondeur de l'homme, on vient de parler du sens de l'homme. Est-ce que finalement scientifiques, philosophes, biologistes, théologiens ne se retrouvent pas tous sur le mystère de l'origine de l'homme? Est-ce que finalement à Noël, nous redevenons frères parce que là on touche pendant quelques heures le mystère de notre origine?
C'est tout à fait exact. Le mystère de notre origine et le mystère de l'humain en tant qu'il est une réalité profondément incarnée, mais en même temps avec une profondeur qui, dans le fond, ne peut pas se comprendre seulement en restant au niveau de l'empirique. Il y a ce mystère à la fois d'une réalité profondément enraciné dans le monde, mais qui, d'une certaine manière, le dépasse toujours. L'homme passe infiniment l'homme, disait Pascal. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de la transcendance et en même temps de la profonde incarnation.
Alors, on parle de profonde incarnation. Il y a un mot qui n'est pas encore apparu dans tout ce que vous nous avez dit, Dominique Lambert, qui est le mot tout simple de tendresse, d'amitié, d'amour. Parce que si l'homme est l'homme, c'est aussi parce qu'il y a cette composante-là.
Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui me frappe dans le monde scientifique. On pourrait dire que la science est un des lieux uniques peut-être au monde où les gens peuvent se retrouver, indépendamment de leurs convictions politique, religieuse, philosophique, pour ensemble chercher une vérité. Et ce qui m'a toujours frappé en science, c'est que c'était un des lieux où on pouvait voir coexister des personnes qui ne se rencontreraient jamais. Et la science, d'une certaine manière, montre qu'une profonde amitié, une rencontre est possible dans ce même chemin d'une recherche exigeante de la vérité. Et donc, c'est vrai que quand on regarde le fonctionnement des communautés scientifiques, on pourrait se dire, mais là on voit des choses qui sont très belles. C'est un facteur d'unité. Il suffit de regarder la cafétéria du CERN à Genève, cette cafétéria qui est située au milieu, pourrait-on dire, de l'accélérateur de particules. Cette cafétéria est le lieu de rencontres humaines, d'amitié, autour de cette recherche des fondements de la matière.
Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Dominique Lambert ?
Ce que je pourrais ajouter, c'est simplement ce message de dire que, d'une certaine manière, la rencontre de la science, de la foi, par la médiation d'une réflexion philosophique, est pour moi tout à fait possible. Mon expérience m'a prouvé que, tout en respectant pleinement les acquis des sciences, on peut progresser dans une découverte de la foi. Les deux, d'une certaine manière, peuvent s'alimenter l'une l'autre. Pour moi, c'est l'optimisme qui m'anime, en croyant que dans le fond, par ces deux chemins, il y a quelque chose de la vérité ultime qui se donne à nous. C'est Dieu lui-même qui anime toute recherche de la vérité. C'est lui qui est au cœur de notre recherche.
Merci Dominique Lambert.
Merci.